Chapitre 39. On suivait les bords du fleuve. Crassus avait 7 régions d'infanterie et un peu moins de 4000 cavaliers et à peu près autant de vélites. Les vélites étaient des gladiateurs habitués à combattre le lion. Ils allaient avoir affaire à un ennemi bien autrement dangereux, les Parthes. Pendant cette marche, les coureurs revinrent de la découverte. Ils annonçaient que la plaine était nue et déserte, aussi loin que la vue pouvait s'étendre, mais que la terre était couverte de pas de chevaux qui avaient rebroussé chemin. Cette nouvelle confirmait les espérances de Crassus. « Jamais les Parthes n'oseraient attendre les Romains, » disait-il. Mais Cassius, pour la 20e fois, intervint, répétant à Crassus qu'il le suppliait de ne pas aller plus avant, que s'il ne voulait pas absolument battre en retraite et fuir devant un adversaire qu'il fuyait, il pouvait retirer son armée dans une des villes que l'on occupait et attendre dans cette ville des renseignements certains sur l'ennemi. Si Crassus refusait absolument ce parti comme trop prudent, il y avait encore un moyen. C'était de se diriger vers celle-ci en suivant les bords du fleuve. De cette façon, il marcherait de conserve avec ses bâtiments de transport. À chaque campement, le fleuve fournirait l'eau, les bâtiments donneraient les vivres et l'on ne manquerait de rien, sans compter que le fleuve, en couvrant les Romains d'un côté, empêcherait qu'ils fussent jamais enveloppés. On combattrait donc, au cas où les Parthes livreraient le combat, à avantage égal et en ayant l'ennemi en face. Les instances du tribun avaient amené Crassus à examiner ce plan et peut-être allait-il s'y rendre, lorsqu'on vit apparaître de loin un cavalier. Ce cavalier traversait si rapidement la plaine que son cheval semblait avoir des ailes. Il se dirigeait droit sur les Romains. C'était un chef de tribu arabe qui, selon Plutarque, se nommait Ariamnès, selon Appien, Acarus, et selon Dion, Augassus. Plusieurs soldats qui avaient servi sous Pompée le reconnurent et attestèrent qu'il avait rendu de grands services à Pompée. Il se présentait comme un ancien ami des Romains, persécuté chez les Parthes à cause de cette amitié, et qui venait pour rendre à Crassus un service qui, à lui seul, valait tous les services rendus à Pompée. C'était de lui servir de guide à travers les déserts. Il se faisait fort de lui faire surprendre les Parthes. Par malheur, Crassus le crut. C'est qu'aussi le barbare, tout barbare qu'il était, s'y était pris admirablement. Il avait commencé par faire l'éloge de Pompée, qui, disait-il, était son bienfaiteur. Puis, comme en extase devant la magnifique armée de Crassus, il n'avait pas tari en éloge sur cette armée et son général. Devant une pareille armée, toutes les armées d'Orodès ne tiendraient pas une heure. Le tout était de joindre les Parthes qui se cachaient. Et les joindre, c'était, sans son secours, chose impossible. Il s'était retiré dans l'intérieur du pays, et tant qu'on suivrait la rivière, on leur tournerait le dos, ou à peu près. D'ailleurs, à quoi bon suivre la rivière? Le pays n'était-il pas sillonné de cours d'eau? À son avis, il n'y avait donc pas un instant à perdre. Les Parthes, qui avaient entendu parler de Crassus et de son armée, ne comptaient point l'attendre. Ils étaient occupés à cette heure à réunir leurs trésors, ce qu'ils avaient de plus précieux en biens et en hommes. Puis, comme une bande d'oiseaux effarouchés, ils allaient prendre leur vol vers l'Hyrcanie et la Scythie. Tout cela était une ruse arabe. Orodès avait partagé son armée en deux corps. Avec l'un, il ravageait l'Arménie pour se venger de cet Artabase qui était venu offrir son secours à Crassus. Avec l'autre, un simple général, ou suréna, ici encore les Romains prennent le titre pour le nom, avec l'autre, un simple général devait attendre qu'Ariamnès lui livre à Crassus et ses Romains. Il est vrai que ce suréna n'était point un homme vulgaire. Par sa naissance, sa richesse et son courage, il était le premier après le roi. Par sa ruse et son habileté, ces deux grandes vertus des peuples nomades de l'Yémen, de l'Assyrie et de la Mésopotamie, il l'emportait sur les plus rusés et les plus habiles de son temps. Pour la taille et pour la beauté, il n'avait point d'égal. En marche, comme un autre César, il menait toujours 100 chameaux chargés de ses bagages et, de plus que César, 200 chariots chargés de ses concubines. 1000 chevaux de grosse cavalerie, 5 ou 6 000 de cavalerie légère formaient son escorte ordinaire qui, avec les valets et les esclaves, ne baissait jamais au-dessous de 10 000 hommes. Quant à sa naissance, elle était si élevée que c'était lui qui, lors de leur avènement au trône, avait la charge de ceindre le bandeau au roi Parthe. Le roi actuel avait été chassé. Le suréna, avec sa garde personnelle, l'avait été prendre dans son exil et l'avait ramené sur son trône. La ville de Séleucie s'entêtait dans la rébellion. Le suréna l'avait prise d'assaut en montant le premier sur ses murailles. Il n'avait pas encore 30 ans, était parfaitement beau, comme nous l'avons dit, et ajoutait encore à sa beauté en se peignant les yeux, en se fardant et en se parfumant comme une femme. C'était là l'homme auquel Crassus allait avoir affaire. Crassus, qui se croyait aussi habile et aussi rusé que qui que ce fût au monde, et qui ignorait que l'Européen le plus habile et le plus rusé n'est qu'un enfant auprès d'un arabe, Crassus fit l'immense faute de se confier à son guide. Celui-ci, quelque temps encore, lui laissa suivre le fleuve, puis par un beau et facile chemin, il l'entraîna peu à peu dans l'intérieur des terres, lui faisant faire halte près des ruisseaux ou des citernes, qui d'abord fournirent de l'eau abondamment. Puis, peu à peu, on s'écarta du fleuve, et la route devint montagneuse et difficile. On s'en plaignit au guide. C'était un court espace à traverser. Les Romains étaient des hommes trop expérimentés et trop habiles aux travaux guerriers pour ne pas savoir qu'il y avait dans tous les pays des marches pénibles et fatigantes. Enfin, on arriva dans une plaine immense, sans arbres, sans eau, sans verdure, avec un horizon de sable. Il n'y avait plus que cette plaine à traverser pour joindre les Parthes. On s'y engagea bientôt. On marcha sur un sable ardent qui brûlait à la fois les pieds et les yeux. Plus on avançait, plus ce sable devenait mouvant et profond. Les soldats en avaient jusqu'aux genoux et, avec leurs lourdes armures, semblaient à tout moment avoir à craindre d'être engloutis. On se rappelait l'armée de Cambyse dévorée par les sables égyptiens et l'on commençait à craindre un sort pareil. Seuls les Gaulois, qui combattaient presque sans armes défensives et qui supportaient à moitié nus le froid et la chaleur, conservaient leur gaieté. Mais les soldats romains poussaient de véritables lamentations en voyant ces vagues de sable mouvantes comme la mer et qui s'étendaient dans d'incommensurables horizons sans une seule plante, sans une colline, sans un seul ruisseau. L'armée mourait de soif. On en était là quand arrivèrent des courriers de l'Arménien Artabase. Il faisait dire à Crassus que, retenu par sa guerre contre Rhodès, il ne pouvait se joindre à lui, mais qu'il invitait Crassus à faire, lui, ce qu'il ne pouvait faire, c'est-à-dire à se rabattre sur l'Arménie. Si Crassus se refusait à cette manœuvre, il l'invitait à éviter, dans ses campements, les lieux propres aux évolutions de cavalerie. Il lui disait qu'il était prudent de ne suivre que les pays montagneux où il put tirer tout l'avantage possible de son infanterie. Mais Crassus, furieux contre lui-même, répondit de vive voix qu'il avait bien autre chose à faire que de s'occuper des Arméniens, qu'il prévenait seulement le roi qu'il allait commencer par détruire les Parthes et que, les Parthes détruits, il se rabattrait sur les Arméniens. Les ambassadeurs partirent, remportant ces menaces, mais jugeant bien que Crassus ne serait jamais en état de les exécuter.